Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Je suis Charlotte Roux, je suis psychopraticienne, je pratique la psychothérapie avec une méthode appelée l'analyse psycho-organique et je suis spécialisée en addiction, avec produits et sans produits.
Super, merci Charlotte. Tu fais de la consultation en ligne, en présentiel, les deux ?
Je fais présentiel à mon cabinet à Paris et en visio pour des Français vivant en province ou à l'étranger.
D'accord, super. Merci Charlotte. Alors aujourd'hui, on est venu parler ensemble donc de l'addiction, comment s'en sortir. Alors avant toute chose, Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'on appelle une addiction ?
Oui, je pense que c'est important de le préciser parce qu'on emploie ce mot pour tout maintenant. On est supposé être addict à tout, or c'est pas tout à fait ça. L'addiction, c'est une maladie qui est définie comme telle par l'OMS et qu'on va caractériser de plusieurs façons. Moi, je vais vous dire les choses assez simplement. Si on prend un produit, par exemple l'alcool, on va regarder en fait l'évolution, la manière dont la personne consomme. On va être de la non-consommation, on va pouvoir être dans une consommation occasionnelle. Et puis, en augmentant un petit peu, moi, c'est les deux dernières parties qui vont m'intéresser, c'est la consommation nocive, excessive, ou l'addiction. Et la différence entre les deux, la ligne est assez fine entre les deux, mais on fait quand même une différence avec des critères très précis. Dans la consommation nocive, il va y avoir des conséquences à la consommation. Alors, par exemple, je ne me lève pas le matin pour aller en cours parce que j'ai trop picolé toute la nuit ou je me suis trop défoncée avec d'autres trucs. Je ne vais pas à mon travail. Je plante les gens avec qui j'ai des rendez-vous, etc., etc. Ce sont des conséquences de la consommation. Et puis, l'addiction va être définie, on va pouvoir définir avec la même chose les conséquences de la consommation qui, en général, augmentent, voire deviennent de plus en plus graves, et avec ce qu'on appelle une perte de maîtrise. C'est-à-dire, même quand je veux arrêter, je suis conscient des conséquences, je n'en peux plus de vivre cette vie-là, je n'y arrive pas. Ouais. C'est la possibilité d'arriver. L'addiction, l'origine du mot vient du mot esclavage, l'esclavagisme.
D'accord.
Moi, je parle d'une prise d'otage du cerveau.
Oui, parce que c'est le cas, en fait. Oui,
ouais, c'est vraiment...
Merci Charlotte donc pour d'avoir défini ce que c'était une addiction parce que c'est parfois pas toujours très clair. Alors que faire finalement et ne pas faire si une personne de notre entourage elle est addicte ?
Ouais, ça c'est un grand sujet. Moi j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai plus de mal à travailler avec l'entourage qu'avec les personnes concernées parce que l'entourage va vouloir évidemment et on comprend sauver, soigner, guérir le proche. Qui est atteint d'addiction. Or, c'est rarement possible. L'addiction, moi, je compare ça un peu. Quand on est dans l'addiction, on a des comportements qui ressemblent de très près à celui du pervers. D'ailleurs, le produit, on va l'appeler un toxique. La personne va avoir des comportements toxiques, va mettre sous emprise sa famille et lui-même sous emprise. Donc, en fait, c'est terrible à dire, mais c'est compliqué de faire comprendre que quand on a une personne toxique dans son entourage, il faut la confier à des personnes capables de la soigner. Si la personne, le problème, c'est que la personne ne veut pas forcément se soigner, n'est pas prête, ne veut pas entendre, parce qu'il y a beaucoup de déni quand on est dans l'addiction. Mais il n'y a que des professionnels qui peuvent aider quelqu'un à s'en sortir. Je crois qu'il est important aussi de soigner la famille en entier. L'addiction, on parle vraiment d'une maladie familiale.
D'accord.
Et pour avoir plus de chances de résultats, il faut vraiment que tout le monde se soigne, mais à commencer par celui qui est le symptôme de ce mal-être souvent familial. Et on ne peut pas faire grand-chose pour un addict qui ne veut pas soigner. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire comprendre. Si la personne demande de l'aide, alors oui, il y a des choses à faire. Il existe partout en France ce qu'on appelle des XAPA, attachés aux hôpitaux, ce sont des centres de jour où il y a toutes des équipes, des spécialistes capables de prendre en charge cette maladie. Les personnes, on peut leur conseiller d'aller à Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes, des groupes de parole et d'entraide super efficaces et gratuites. Voir un psy, évidemment, voir un psychiatre si besoin, parce qu'on a besoin de vérifier quand on prend un addict en charge qu'il n'y a pas une comorbidité associée, qu'il n'y a pas une maladie associée, type bipolarité ou un trouble de la personnalité comme le borderline et on schizophrénie, enfin, etc. Je précise aussi un truc très important, c'est que quand la plupart des produits peuvent s'arrêter comme ça, du jour au lendemain, sauf l'alcool. L'alcool, il est très dangereux qu'un alcoolique arrête comme ça, d'un coup. C'est vraiment très, très important de faire un sevrage et il y a vraiment un risque mortel. Donc, c'est important à savoir.
Je rebondis, Charlotte, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui portent oui. sur le sigle que tu nous as dit, la CSAPA. Comment ça s'écrit, on me demande ?
CSAPA. Et alors, je vais vous dire là tout de suite, j'ai un trou de mémoire, centre, je ne sais plus. Regardez CSAPA, CSAPA.
Il y en a pas.
Okay. Désolée, un trou de mémoire.
Ok, pas de souci. Merci. Merci en tout cas, Charlotte, déjà pour ce que tu as pu apporter. Alors, justement, que vit un addict et pourquoi on devient addict aussi ?
Alors, l'addict vit un enfer. Et c'est compliqué à faire partager à sa famille et à ses proches parce qu'eux-mêmes vivent un enfer d'être le proche de cette personne. Moi, je dis que l'addiction, j'ai pour habitude de dire que c'est un job à temps plein. Se réveiller le matin, où est-ce que je vais trouver l'argent, appeler le dealer, c'est vraiment un job à temps plein. Il faut mentir tout le temps, tout cacher à son entourage, manipuler, on manipule beaucoup quand on est dans l'addiction, voler parfois sa famille, ses proches, etc. C'est épuisant, ouais. un boulot épuisant. Et donc, voilà ce qu'on vit quand on est dans l'addiction, concrètement, beaucoup de misère. C'est pas très joyeux en fait l'addiction hein. Beaucoup de honte, il y a une honte énorme pourquoi devient-on addict ? Alors c'est une vraie question importante et en même temps pas. Je vais faire une généralité parce qu'il y a mille raisons de devenir addict hein. La consommation de produits qui deviendra addiction, c'est la rencontre entre une personnalité, un environnement et un produit. Alors, quand je dis un produit, ça peut être une pratique, comme l'anorexie, par exemple, la cyberaddiction. L'environnement est important. Évidemment, il va y avoir l'histoire de vie de la personne. Ça peut être des traumas. On rencontre souvent, on va rencontrer souvent des traumas type inceste, agression sexuelle par exemple, la jeune fille qui va être allée dans une soirée qui est un peu trop picolée mais qui n'est pas alcoolique du tout, hein, mais qui va avoir un blackout, qui se fait agresser pendant ce blackout et qui après, couverte de honte, va tomber dans l'addiction. L'addiction, dans mon métier, on parle d'automédication, ça vient vraiment anesthésier quelque chose. On parle de la maladie du lien et des émotions dans l'addiction, c'est-à-dire que on va avoir du mal à se confier sur ce qui s'est passé. Ça peut être un divorce de parents mal digérés, ça peut être c'est une personnalité qui peut-être est c'est dans tous les cas très sensible, qui ne va pas savoir où demander de l'aide ou avoir honte de demander de l'aide, considérer que ses problèmes sont pas très importants ou bien ne pas être conscient, pire, de la difficulté de ce qu'il ou elle vit et s'anesthésier avec l'addiction sans comprendre pourquoi ils s'anesthésient. Parce qu'en fait, quand on va travailler avec eux, on va d'abord travailler sur arrêter la consommation.
Oui.
Et puis plus tard, sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que la personne est arrivée là ? Bon, on retrouve beaucoup de choses, notamment la très grande difficulté du lien et d'être en lien avec ses propres émotions.
D'accord. Tout à l'heure, tu nous disais d'ailleurs que, je rebondis, tu nous disais que la famille était très importante, l'entourage, et que finalement, eux aussi, dans le meilleur des mondes, devraient aller aussi en thérapie, on va dire. Pourquoi c'est si important que ça que la famille aille aussi en thérapie, puisque tu nous dis que c'était lié aux relations ?
Parce que l'addict, très souvent, dans une famille, il est, en fait, c'est un symptôme. il faudrait voir l'addiction comme une somatisation ou un symptôme. Et l'addict, il a sa place d'addict dans la famille. Mais il faudrait voir ce qui se passe. Par exemple, très souvent, ça arrive très souvent, que des familles très bienveillantes, la majorité des familles sont bienveillantes. Hein, la légende de l'addict avec une famille horrible, c'est une minorité. Mais malgré eux, les parents notamment ou les conjoints vont tout faire à l'envers avec l'addict parce qu'ils ont peur qu'il meure, parce qu'ils ont peur qu'il lui arrive un truc. Donc, c'est comme ça qu'on va retrouver la mère qui donne de l'argent à son fils pour qu'il laisse acheter sa conso, les parents, en croyant bien faire, ça part d'une bonne intention, font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et puis, on s'aperçoit que quand l'addict arrête la consommation, bien sûr qu'il y a un moment de soulagement gigantesque pour les familles qui n'en peuvent plus la plupart du temps. Pour autant, ça va être très compliqué pour eux de sortir l'addict de sa place d'addict. Dans nos familles, on dit que dans thérapie systémique, on dit que la famille est un système. Donc, ça va être important de regarder quel est ce système. Quand il y a du lien et que ça fonctionne bien, on va parler d'une communication circulaire. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas aussi évident que ça.
D'accord. Merci Charlotte. Alors justement, en quoi il va consister le travail pour se sortir d'une addiction ?
C'est un gros travail. Moi, je suis très admirative des personnes qui entreprennent ce travail, je tiens à le dire, parce que c'est un gros, gros travail qui va être long. Les addicts n'aiment pas. Moi, je ne leur dis pas que ça va être long parce que ça les inquiète, mais ça va être long et ça va être passionnant et très enrichissant. Il y a plusieurs choses. Moi, je crois beaucoup aux groupes de parole et aux groupes d'entraide parce que je crois que pouvoir s'identifier à d'autres gens qui traversent ou ont traversé la même chose, c'est un vrai levier. Donc, moi, je recommande beaucoup les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, mais il y a aussi des centres formidables en France, alors qui prônent l'abstinence. Je crois que c'est très compliqué. Bon, après, tous mes confrères, consoeurs ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je pense qu'au départ, il faut un temps d'abstinence. Après, si la personne arrive plus tard à contrôler sa consommation, bon, très bien. Mais souvent, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est une maladie qui est chronique. Hein. C'est pas le cerveau lui enregistre la dose dont la personne a besoin. Le jour où on repicole ou reprend de l'héroïne ou je sais pas quoi, le cerveau réclame sa dose d'origine. C'est comme ça, d'ailleurs, la plupart des OD d'héroïne arrive suite à une rechute parce que la personne va reprendre direct ce qu'elle prenait avant d'arrêter et elle retombe direct, elle peut en mourir. Mais donc voilà, donc moi ce qui est très important dans l'addiction, peu importe la méthode, que ce soit en XAPA, en centre, il y a des centres formidables comme la maison de Kate près de Soissons, le centre EDVO Espoir du Val-d'Oise dans lequel j'ai travaillé pendant un temps, la communauté thérapeutique d'Aubervilliers, formidable. Les communautés-là dont je vous parle sont des centres en résidentiel, mais ils sont super protégés, il y a un travail extraordinaire qui est fait, en groupe et en individuel. Voilà, après, si je travaille seule, par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient me voir pour arrêter, qui ne veut pas aller dans un de ces centres, je vais l'envoyer à minima chez un psychiatre et à Narcotique Anonyme, par exemple, parce que c'est très important qu'il y ait plusieurs intervenants pour augmenter les chances de succès.
Ok, j'imagine que la personne, du coup, elle se sent entourée, épaulée, elle ne se sent pas toute seule à porter ce fardeau, finalement.
Oui, absolument. Ça la protège et ça protège aussi les thérapeutes parce que l'addiction se déplace tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas tellement s'intéresser au produit. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est au comportement face à un produit. Et le comportement, il est addictif avec un addict. La consommation se déplace. Moi, je me souviens quand je travaillais dans ce centre, le DVO, on surveillait les patients la journée. Hein, ils vivaient ensemble, ils dormaient là-bas. Ouais. Et on pouvait s'apercevoir que certains, OK, avaient arrêté de consommer leurs produits, mais ils passaient 10 heures par jour devant Netflix ou devant des applis de rencontre, par exemple. Donc c'est ou à faire du sport, des heures et des heures dans la journée. Donc c'est au comportement qu'on va s'arrêter. On va observer.
D'accord. Et Charlotte, est-ce que finalement la personne aussi, elle devrait être abstinente à vie ? Tu nous as un peu plus ou moins répondu ton opinion là-dessus.
Alors je dirais pas ça comme ça. C'est un choix qui est difficile. Quand on a 25 ans, si on vous dit qu'il faut être abstinent à vie, je comprends que ça soit insupportable à entendre. Moi, je crois que quand on peut, très bien. Si on ne peut pas, on fait autrement. Tout le monde ne peut pas adhérer à ce qu'on appelle à l'abstinence telle que... tout le monde ne peut pas y adhérer. Voilà. Moi, je crois que quand on peut, c'est très bien. On s'aperçoit que la vie peut être très chouette sans avoir besoin de s'anesthésier, qu'on peut traverser les émotions. C'est l'objectif de toute thérapie, hein, de toute façon. Mais au départ, ce n'est pas tellement le problème. Déjà, abstenez-vous quelque temps, devenez clean, voyez ce que ça fait, puis après, prenez vos décisions.
D'accord. Merci, merci Charlotte, déjà d'avoir répondu à nos questions. Il y a aussi pas mal de questions en ligne, du coup, sur l'addiction. Mmh. Je vois d'ailleurs que la Marquise de Sable a posé une question sur l'addiction pour le tabac. Je vois que c'est très général, donc n'hésite pas, si tu souhaites poser des questions, à en poser une directement dans le petit widget questions ou un peu plus moins général directement en ligne. N'hésite pas. Alors, on a Marie déjà qui nous dit en direct, alors, est-ce que pour le tabac, on peut y arriver seul ? Quelle routine faut-il prendre ?
Oui, on peut y arriver seul, le tabac. Oui, c'est une addiction. Moi, je vous avouerai que je travaille très peu avec. Oui, on peut y arriver seul, bien sûr. Et les routines prendre, eh ben, ça va être un peu comme avec l'alcool ou la drogue. C'est-à-dire, il va falloir observer notamment à quel moment, quels sont les moments les plus forts. Par exemple, je rentre du travail ou je sors du travail, je m'allume ma cigarette. Peut-être qu'il va falloir penser à comment je peux remplacer ça. Peut-être pas prendre le même chemin. Peut-être pas, je sais pas, je suis au téléphone, je m'allume une clope. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la place ? Prendre un thé, une tisane. En fait, il faut vraiment changer ses habitudes au départ. Mais vraiment, vraiment. Hein. C'est comme avec la drogue et l'alcool. Là, pour le coup, c'est la même chose. Il faut changer ses rituels et trouver des rituels qui conviennent. Mais par contre, oui, on peut arrêter seul. Et si on n'y arrive pas, on va consulter un médecin, un tabacologue, un XAPA. Dans les XAPA aussi. Dans beaucoup de XAPA, on s'occupe du tabac.
D'accord.
Il y a des stations tabac partout maintenant qui sont très bien faites.
D'accord. Super. Merci, merci Charlotte. Alors, on a Laure qui nous dit « Je suis addict au jeu d'argent. Comment arrêter ?»
En allant en thérapie, parce que c'est une vraie addiction. Ça, c'est une addiction à une pratique. Et là, seul, ça va être compliqué. C'est vraiment en allant demander de l'aide. Pareil, psy, XAPA, ouais, c'est vraiment les solutions. Il n'y a pas d'autres solutions, là.
Est-ce que finalement aussi dans l'addiction au jeu d'argent, on retrouve aussi cette fonction d'anesthésier les émotions, on retrouve ça aussi ?
Oui, alors si Laure est addict au jeu d'argent, pareil, hein, pour savoir si elle est addict, est-ce qu'il y a des conséquences à sa consommation dans son quotidien ? Est-ce qu'elle s'est mise en danger, etc. Et est-ce qu'il y a des pertes de maîtrise, c'est-à-dire elle veut arrêter, elle est très malheureuse de son comportement, mais ne peut pas. C'est exactement les mêmes critères. C'est une drogue, hein, pareil.
D'accord. Merci, merci Charlotte. Alors, on va regarder une autre question. Alors, Ruby qui nous dit, pourriez-vous parler des conséquences de l'addiction sur l'enfant de la personne addicte ? S'il vous plaît.
Ouais, ça fait partie de l'entourage. Ben, pas facile. Hein. Alors, soit il y a une thérapie familiale qui est mise en place. Je ne peux pas faire de généralité. Je ne peux pas dire tous les enfants de parents dépendants, addicts, auront les mêmes conséquences. Ce n'est pas possible. Ça va tellement dépendre de la famille. Comment c'est parlé à la maison ? D'abord, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Et puis... est-ce qu'on est dans le non-dit, on n'en parle pas, on parle de, alors si c'est un papa, quand papa n'était pas bien, quand papa était malade, est-ce qu'il y a des conversations, comment se passe la famille ? Je ne peux pas répondre précisément à cette personne parce que ça va tellement dépendre de la famille, c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, que les proches aillent consulter, vraiment.
D'accord. Et j'imagine aussi que ça dépend aussi à quel âge ça intervient chez l'enfant aussi.
À quel âge ? Oui, ouais. Mais l'enfant va probablement garder des empreintes, parce que des ressentis par exemple, c'est-à-dire l'enfant qui pleure à 2 ans parce qu'il est fatigué le soir et à qui on demande de se taire parce que sinon papa va se mettre en colère, ou papa dort beaucoup dans la journée, etc. Il va ressentir qu'il y a un malaise, qu'on ne lui demande pas d'arrêter de pleurer parce que c'est juste pénible d'entendre un enfant pleurer, mais parce que la mère vit une tension qui est très compliqué pour elle. Et ça, il va l'absorber comme une éponge. Donc, il y a tellement de cas particuliers. Mais une fois encore, c'est une très bonne question parce qu'elle illustre parfaitement ce que je dis. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur l'enfant ? Ben, que les parents aillent en thérapie, qu'ils consomment ou pas. Il faut absolument que l'entourage demande de l'aide. C'est pour ça que je suis... c'est très compliqué de faire comprendre à l'entourage qu'il a autant besoin d'aide que l'addict. On va parler de codépendance, hein, c'est-à-dire que pendant que maman ou papa est très occupé par le conjoint ou l'enfant qui est totalement dans l'addiction, il est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il est pris en otage pareil. Donc il est en obsession, les addicts sont ce sont des caractères obsessionnels compulsifs. L'entourage, pareil, ça devient une obsession. L'entourage, combien de mères vont mentir d'elles quand elles ont un dîner le soir et ne pas y aller parce qu'elles sont inquiètes pour leur môme qui n'est pas bien au lit depuis 2 jours, vont mentir partout, ne vont pas aller travailler. C'est la même chose, on peut faire un parallèle, vraiment. Et l'entourage dira, mais j'irai mieux quand mon enfant ira mieux ou quand mon mari ou ma femme ira mieux. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça, non.
D'accord, merci pour cette précision. Il y a une question qui était revenue plusieurs fois aussi en ligne et directement dans les questions, c'était, qui est liée finalement aussi à celle-là, c'était le côté génétique. Est-ce que finalement on a un risque de récidive dans la famille quand un des parents est alcoolique, par exemple ? Est-ce que l'enfant a des risques de plus en souffrir ?
Oui, alors moi, si j'ai bien compris les dernières études, je crois qu'on penche vers une possible transmission génétique. Je ne suis pas sûre que ça soit déjà aussi clair que ça. Maintenant, ce que je constate, c'est que chez beaucoup de patients, alors je ne vais parler que de moi là, mais je pourrais parler de confrères et consoeurs aussi. Chez beaucoup de patients, mais pas plus tard qu'hier d'ailleurs, j'ai vu un patient qui me racontait hein, alcoolisme chez le grand-père, alcoolisme chez son père et possibilité d'alcoolisme chez lui. Bon, on retrouve quand même ou des personnes en dépression, beaucoup de dépressifs dans la famille ou voilà, et beaucoup de non-dits souvent dans ces familles-là aussi. D'accord. Des secrets.
D'accord. Merci Charlotte. On va regarder une autre question. Alors, Myriam qui nous dit « Mon amie est addicte au cannabis. Elle a une hyperactivité cérébrale. » Et ça lui permet de mieux se relaxer. Que faire dans ce cas et comment pouvoir arrêter ?
Alors, à nouveau, pareil, s'agit-il vraiment d'une addiction ? C'est-à-dire, est-ce que c'est cette personne qui souffre de voir son ami prendre du cannabis ou est-ce que c'est la personne qui prend du cannabis qui en souffre ? Ensuite, est-ce qu'il s'agit bien d'une addiction ? Oui, évidemment, quand je parle d'automédication, évidemment que ça vient calmer souvent de l'hyperactivité, d'ailleurs, avec le cannabis et la cocaïne. Mais comment arrêter hein, c'était la question, c'est ça ?
Oui, attends, je vais regarder. Que faire ? Comment pouvoir arrêter ?
Oui, mais pareil. Et comment pouvoir arrêter ? Bah, déjà, est-ce que la personne souffre de sa consommation ou est-ce que beaucoup de gens viennent pas forcément pour eux d'ailleurs, hein, ils viennent au départ, la motivation elle est externe, c'est-à-dire ma femme, mon mari me menace de me quitter si je me fais pas soigner, nous notre boulot ça va être que la consommation devienne interne, hein, qu'il se l'approprie. Donc moi j'ai envie de dire à cette personne, voir avec son amie si déjà elle a envie d'arrêter, si elle a envie d'arrêter, même parcours, XAPA, psy ou narcotique anonyme. Et éventuellement, moi, il m'est déjà arrivé d'envoyer en centre hein, de détox, en cure, dans un des centres dont j'ai parlé, des personnes addictes uniquement au cannabis. Je voudrais juste préciser un truc sur le cannabis, c'est important d'ailleurs. Oui. On appelait ça, à mon époque, hein, une drogue douce. On a tendance à vouloir continuer à appeler ça une drogue douce. Dans mon métier, ça fait un petit moment que ça n'est plus une drogue douce. Pourquoi ? Parce que dans le cannabis, la substance active, c'est le THC, tétrahydrocannabidiol, et que cette substance est ultra dangereuse. Alors pourquoi il y a 30 ans, ce n'était pas aussi dangereux que ça ? Parce que d'abord, il y avait moins de il y avait moins de THC. Et puis, il y avait surtout une autre substance très importante qu'on appelle le cannabidiol, qu'on connaît bien aujourd'hui avec tous les magasins de CBD, etc. Le cannabidiol, c'est une substance naturelle qu'on produit aussi à l'intérieur de nous. Et les petits malins qui vendent du cannabis et qui en fabriquent, les producteurs, se sont mis à augmenter très fortement les doses de THC pour augmenter l'addiction et à ne plus mettre du tout de cannabidiol. C'est comme ça qu'on assiste à énormément, je mesure mes mots, de jeunes, notamment, qui, en plus d'être addicts, développent des maladies psychiatriques. Et on peut passer 2-3 ans comme ça, tranquille, à fumer du cannabis, et tout d'un coup, on voit débarquer aux urgences des gamins qui font des bouffées délirantes d'enfer, des crises de schizophrénie, des trucs assez dramatiques quand même. Donc, c'est le cannabis n'est pas une drogue douce, hein. C'est important de le savoir. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, évidemment, mais ça n'est pas une drogue. On ne peut pas l'appeler comme ça.
D'accord. Merci Charlotte. On va encore regarder une ou deux questions parce qu'il y a pas mal de questions. Il y a Stéphana qui nous dit « Ne pas savoir s'arrêter de boire, mais seulement dans un contexte festif soirée, est-ce que c'est une forme d'alcoolisme ?»
C'est pareil. Est-ce qu'il y a des conséquences à la consommation ? Comment se passe le quotidien ? C'est vraiment le critère. Ne pas s'arrêter de boire, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire j'ai pris 6 verres alors que je voulais en prendre 2 ? Je prends ma voiture après, j'ai un carton. Là, il y a peut-être des questions à se poser, en effet. Mais il faut voir tout un faisceau de choses. Moi, je conseillerais à cette personne d'aller consulter un psy, de faire un point. Et puis, elle en saura plus. Je voudrais juste dire un truc. J'ai vu une question passer tout à l'heure.
Oui, vas-y.
Une personne qui disait, est-ce que je dois culpabiliser de quitter une personne addicte ? Alors, non. Voilà, non. Je ne peux pas dire autre chose. Non, vous n'avez pas les moyens de la soigner. Vous devez vivre un enfer. Et le seul moyen de cesser de vivre cet enfer, si la personne ne veut pas se soigner, c'est de la quitter.
Merci.
Ça sera une conséquence pour lui de sa consommation. Et peut-être que ça lui rendra service en plus.
Merci Charlotte. Alors on va regarder une dernière question. Alors on va finir par celle-ci de Stillnaze qui nous dit est-ce qu'on peut aider et comment une personne addict en alcool ?
On peut l'aider en lui donnant des adresses pour se soigner et ça s'arrête là. Bah, alors en évitant de prendre des pots avec elle aussi, etc. Parce que là, on ne lui rend pas service. Mais sinon, c'est en lui donnant des adresses pour se soigner. Si vous voulez, c'est très compliqué une fois de plus pour les proches parce que c'est compliqué de comprendre qu'on ne peut pas aider quelqu'un. On peut l'aider simplement en lui disant « tu as un problème, ça c'est une grande aide, j'en ai marre de vivre avec toi ». Ou si c'est une société, moi j'ai des personnes, le déclencheur ça a été quand ils se sont fait virer de leur travail, mais chacun a son déclencheur, et en donnant des adresses. Donc, je pense que tu as besoin d'aide. Si tu as besoin de moi, quand tu arrêtes, je serai là. D'ici là, laisse-moi tranquille.
D'accord. Oui, on peut pas aider de soi-même une personne et j'imagine que la moralisation, moraliser une personne là-dessus, ça ne changera rien.
Ça ne changera rien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais moi quand je reçois des gens ? C'est d'écouter ce qu'ils ont à dire parce que pour une fois, ils ne sont pas en face de leur entourage qui est inquiet, las, en colère, etc. Donc, ils vont pouvoir raconter des choses qu'ils cachent dans ce qu'ils font dans l'addiction. Il y a une honte énorme, mais il y a surtout beaucoup de déni. Donc, de toute façon, ils vont manipuler, ils vont promettre qu'ils vont arrêter, ils vont jurer qu'ils vont arrêter. Et puis, ils n'arrêtent pas et ça dure des années, éventuellement. Enfin, et la personne, l'entourage est super en colère, a l'impression de se faire avoir. Mais ouais. Même moi, hein, qui suis psy, si j'avais quelqu'un dans mon entourage proche qui consommait, je n'aurais pas cette capacité à soigner une personne qui ne voudrait pas se soigner. J'aurais juste la capacité de la mettre dehors.
Bien sûr. Alors Charlotte, on va finir par une dernière question parce qu'il y a une personne qui veut vraiment qu'on réponde à sa question. Ça lui tient vraiment à cœur. C'est Yasouli qui nous dit « J'ai une question très importante, s'il vous plaît. Quand quelqu'un consomme de l'alcool et devient violent, limite une rage croissante, est-ce dû à l'alcool ou bien à sa personnalité ?»
Peut-être les deux, mais l'alcool désinhibe. Hein, l'alcool, ça désinhibe dans le bon sens. C'est-à-dire, je suis un garçon, je suis timide, je veux draguer une fille dans une soirée. Je remarque que l'alcool, c'est mon remède et je ne fais plus que ça. Mais ça désinhibe aussi de l'autre côté. Je suis en colère, je deviens enragée. Oui, l'alcool rend violent.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est parfois pas évident les questions utilisateurs, mais tu as réussi avec grand brio, donc bravo, bravo à toi. Je ne sais pas si tu avais un message aujourd'hui à faire passer, Charlotte, soit sur ton cabinet, soit sur l'addiction, mais je te laisse une petite minute pour en parler si tu en as envie.
Ah, alors je vais juste moi terminer en disant que c'est une clinique qui me touche beaucoup pour des tas de raisons. Et ça se soigne, l'entourage. Ne cherchez pas à soigner votre proche, lâchez-les. Moi, je vais vous dire comment j'appelle les addicts que je reçois. Et je leur dis d'ailleurs, hein, c'est bien parce que c'est une clinique en fait assez directe. Je les appelle les attachants, voilà, parce qu'ils sont très, très attachants. Très attachants et très chiants, hein, parce qu'ils vont vous planter, ils vont mentir, ils vont manipuler. Et moi, mon boulot, c'est de les aider à ne plus faire ça et à faire tomber les masques. Mais voilà, c'est une jolie clinique, c'est un chouette boulot. Et ne perdez pas espoir, faites-vous aider. Mais les familles, faites-vous aider. C'est comme ça que vous allez aider la personne de votre entourage.
D'accord. Il y a Mike qui demande quel est le nom de la clinique.
La clinique de l'addiction, c'est ça dont je parle. Hein. Je travaille dans la clinique, ça s'appelle, dans mon métier, on appelle ça la clinique de l'addiction. Mais c'est pas un endroit, c'est un champ de travail.
Voilà, ok, on s'entend. Merci Charlotte pour ce petit point que
merci
tu nous as donné.
Merci à la communauté psychologue net.
Avec grand plaisir Charlotte, je te souhaite une très belle journée et merci encore pour ta présence aujourd'hui sur ce thème qui était l'addiction.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.